l'ambassade de Chine qui envoyait dans différentes contrées des gens pour enseigner le mandarin, langue seconde. Et j'étais là donc avec le frère Léonel. Et il sait mon affection pour la Chine et ma passion pour la Chine. Et pendant que le prof nous parlait simplement de la culture, de la nourriture, des habitudes chinoises, je regardais le prof et j'avais les larmes aux yeux. Et Léonel était obligé de me donner des coups de coude, puis des coups de pied sous la table pour me dire, calme-toi, Florent, c'est juste un cours. Voilà. Mais donc j'ai hâte de retourner au mandarin, de retourner à mes cours de chinois. Bonjour Jane, Dieu te bénisse. Donc encore une fois, on s'excuse pour le bruit ambiant. J'ai une fenêtre qui est ouverte, c'est la climatisation qui est installée. Donc le bruit extérieur est un peu plus audible. Et ce matin, il y a des travaux avec des tracteurs, des rouleaux compresseurs. Ils sont en train de damer le terrain devant la maison qui doit servir pour le REM. Donc on s'excuse du bruit. Ils ne sont pas collaborateurs ou coopératifs, coopérants. Tu vois? Ils ont peu de coopération avec nos bénédictions matinales. Comme toi, Yahweh, je préférais, je crois, le parler que l'écrire. L'écrire était très compliqué, le parler, ça va là. Les accents sont un peu compliqués, les intonations qu'on doit y mettre sont un peu compliquées, mais la structure de phrase est très facile au niveau de la grammaire. Mais effectivement, pour apprendre les symboles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bonjour Samek, bonjour Suze, Dieu te bénisse. Donc, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Encore un temps de partage, un temps d'édification, un temps Seigneur où nous plongeons nos regards dans cette riche et merveilleuse parole que tu nous as léguée. Nous prions Seigneur que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos pensées à ta pensée, que tu ouvres notre compréhension Seigneur face à cette parole. Et que celle-ci puisse trouver, Seigneur, un terrain propice à sa croissance. Qu'elle puisse s'enraciner profondément dans nos cœurs. Qu'elle puisse être arrosée par l'onction de ton esprit. Et qu'elle puisse croître afin de porter un fruit qui te sera agréable. Non seulement durant notre vie ici-bas sur terre, mais un fruit qui demeurera et qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère. Accorde-moi, Seigneur, la facilité, accorde-moi les mots, et nous scellons, Seigneur, toute cette séance, tout ce temps que nous passons ensemble, nous le scellons par ton sang précieux. Nous interdisons, Seigneur, toute distraction, que nos pensées te soient rendues captives, et que tu nous accordes, Seigneur, de sentir ta présence et d'entendre ta voix. Nous t'avons prié dans le plus merveilleux, le plus majestueux des noms. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous le passage au complet du verset 9 au verset 15. Et après cela, je vais relire le verset 12. On est toujours, bien entendu, dans 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 9 au verset 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Que Dieu bénisse sa parole. Je relis pour vous le verset 12. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Et aujourd'hui, on étudie la question du bois, du foin et du chaume. Pourquoi j'ai tenu à relire l'ensemble du passage? Tout d'abord, pour nous rappeler que nous sommes dans la construction. Le Seigneur, à travers son serviteur Paul, qui s'adresse à l'église de Corinthe, nous donne deux images. À un moment donné, il compare l'église et il compare le croyant à un champ ou à des cultivateurs qui doivent travailler une terre et qui doivent ensemencer une terre et à travers laquelle un fruit va être donné. Dans un autre cas, comme c'est le cas dans cette section du chapitre, on parle plutôt d'un édifice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit clairement, même s'il y a un verset qui dit que Christ bâtit son Église, on nous dit clairement qu'ici, nous sommes des constructeurs avec Dieu. Au verset 9, « Vous êtes le champ et vous êtes l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement et quelqu'un bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc, inévitablement, nous sommes effectivement des constructeurs avec Christ. On lui bâtit le temple du Saint-Esprit que notre corps, notre âme et notre esprit, notre être tout entier est. Et Paul nous dit, faites attention à comment vous bâtissez. Hier, on a vu trois premiers ingrédients. On a parlé de l'or avec les instruments précieux que représentait l'or. Et on se rappelle que la morale ou l'idée maîtresse qu'on sortait de l'or, c'était que nous devions être dans une quête perpétuelle, permanente, constante, de qualité supérieure dans notre vie, mais aussi dans notre vie de service. Offrir à Dieu, offrir à l'avancement de son royaume une qualité de service de haut niveau. De surcroît à cela, lorsqu'on parlait de l'argent, on parlait de cette pellicule assez épaisse, en fait, d'argent qu'on mettait au-dessus ou qui enveloppait un matériel peut-être un peu moins noble. Et là, c'était pour améliorer non seulement la solidité de l'instrument, mais aussi améliorer la beauté de l'instrument. Et pour nous, l'argent représentait donc une image d'une constante quête d'amélioration, d'une constante quête de progrès dans notre vie. Et Paul qui va dire plus loin que nous devons aller de progrès en progrès et de gloire en gloire. Enfin, les pierres, on s'est dit que oui, ça pouvait représenter effectivement le plastron que les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur portait durant ses offices, mais on parlait aussi, et on l'a vu, lorsqu'on a lu les textes sur les matériaux que David avait emmagasinés pour la construction du temple, on nous parlait notamment de marbre. Donc, lorsqu'on parle de pierres précieuses, on parlait plutôt de ces pierres qui servaient à construire non seulement les blocs pour la structure ou pour la carcasse de l'édifice que représenterait le temple, mais aussi le marbre, le granit, desquels on tirerait les colonnes du temple. Donc, c'était non seulement une qualité de service, non seulement une amélioration constante, mais aussi assurer la pérennité et la solidité de l'édifice. Ce matin, on voit trois autres termes. Et là, je retourne à mes notes pour aujourd'hui. Donc, on voit le terme... Et je change ici. Bon. On voit le terme « bois », le terme « foin » et le terme « chaume ». Le foin et le chaume, on le confond régulièrement. On va expliquer ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre. Et vous allez voir que c'est bien différent. Le terme bois, donc faites attention si vous construisez avec du bois, avec du foin ou du chaume. On nous dit que notre œuvre va être éprouvée par le feu. Et lorsqu'on parle du bois, c'est donc le terme xylon. Xylon. X-Y-L-O-N. X-Y-L-O-N. Ceux qui font un peu de mots croisés ou qui aiment les histoires d'étymologie des termes, vous comprendrez d'où vient le terme xylophone, contrairement à un métallophone. Donc, xylophone, c'est cet instrument qui est un peu rectangulaire avec des plaques de bois. Et lorsqu'on frappe sur ces plaques de bois, elles émettent un son particulier. Il y a le même instrument qui est fait avec du métal et qu'on appelle à ce moment un métallophone. Mais le xylophone tire son nom xylophone de xylo, qui veut dire le bois. Donc, lorsqu'on parle du bois ici, on parle d'arbre, on parle de branches, on parle de bûches, on parle de troncs et on parle bien entendu de poutres aussi. La particularité du bois par rapport au granit, un, il est moins solide, mais assurément, il est aussi moins coûteux. C'est beaucoup plus facile de sortir une poutre en bois que de sortir une poutre ou une colonne en marbre. Il est évident que sculpter une colonne en bois, régulièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un arbre, on va lui enlever les branches, on va lui enlever l'écorce et on va bien l'arranger juste en le sculptant pour faire une colonne. Mais c'est assez simple, c'est assez facile d'accès. Alors que lorsqu'on parle d'une colonne de marbre, il faut aller creuser dans la terre, il faut trouver un bon gisement avec une bonne quantité. Et de cette quantité de marbre, on va tirer une colonne. Donc, c'est beaucoup plus coûteux de faire une colonne de marbre que de faire une poutre en bois. Et la poutre en bois était ce genre d'instrument qui était recouvert, comme on l'a vu hier, avec cette couche d'argent tout autour d'elle pour la solidifier, pour la protéger des intempéries, pour la protéger du feu, de la chaleur. Donc, ça solidifiait le bois et de surcroît à cela, ça embellissait le bois. Lorsqu'on parle de construire avec du bois ici, comparativement à ce qu'on a étudié hier, le bois, c'est ce qui me coûte peu. Et malheureusement, régulièrement, c'est ce qu'on donne à Dieu. Il y a cette image qui nous a été donnée par Jésus à un moment donné. Il est dans une synagogue et c'est le moment de l'offrande. Et tous les hommes riches viennent avec des sacs remplis d'or et d'argent et ils les déposent dans la quête commune. Mais il y a cette femme veuve, pauvre, qui va mettre une seule pièce. Et Jésus va demander à ses disciples qui a donné davantage. Et les gens vont dire, assurément, c'est les hommes riches qui sont arrivés avec des sacs. Quant à savoir qui, parmi eux tous, en a donné le plus, ça serait difficile à dire, mais ils disent, ouais, les hommes avec les sacs. Et Jésus va dire, non, en fait, celle qui a donné le plus, c'était cette veuve qui n'a donné qu'une seule pièce parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et alors que les autres avaient donné, la Bible nous dit, de leur superflu. Alors quand je donne du bois à Dieu, lorsque j'amène du bois dans mon service, ou lorsque mon service est comparé à une construction de bois, c'est donc une construction dans laquelle j'ai peu, ou pour laquelle j'ai peu payé, pour laquelle je me suis peu donné. Et régulièrement, malheureusement, on est parmi ces gens, effectivement, qui calculons le coût qui nous est demandé pour servir Dieu et qui régulièrement, malheureusement, va donner à Dieu ce qui nous coûte peu cher. On dirait qu'il est facile pour notre propre personne de payer des montants importants, mais que lorsqu'il arrive question d'être aux autres, ou lorsqu'il arrive question de Dieu, on commence à soupeser la chose et régulièrement, on ne le dira pas très fort, mais régulièrement, on va donner au Seigneur peut-être ce qui nous coûte un peu moins. Ce qui nous coûte moins cher de façon pécuniaire plutôt, ce qui nous coûte peu au niveau du temps, ce qui nous coûte peu au niveau des efforts, ce qui nous coûte peu au niveau du coût sur nous-mêmes. Il y a des activités qui nous sont faciles, il y a des activités qui nous sont moins faciles. Et lorsque je construis sur le roc qu'est Jésus avec ses activités, si je donne simplement à Dieu ce qui m'est facile, je lui donne très peu. Je lui donne quelque chose qui coûte peu. Il y a des gens qui ne veulent servir Dieu que dans les choses qu'ils apprécient, qu'ils aiment faire et qui leur est peu demandant. Si vous me demandiez de servir Dieu en faisant de la cuisine, je pourrais vous dire que comparativement à mon épouse, servir la cuisine ou faire de la cuisine va me coûter beaucoup moins à moi que ça ne pourrait coûter à Daphné. En contrepartie, si vous me demandez à moi de servir Dieu en peaufinant ma voix et en chantant des mélodies, je peux vous assurer que ça va me coûter beaucoup plus cher à moi que ça ne coûterait à Daphné. C'est vrai que Dieu nous donne des talents et que ces talents doivent être utilisés et que ces talents s'exercent dans la joie, dans la paix, dans la félicité. Donc, c'est un plaisir de servir Dieu. Mais à l'occasion, on est confronté entre rester dans les choses avec lesquelles on a l'habitude, rester dans les choses qui nous sont faciles ou faire le pas extra et donner à Dieu quelque chose qui nous coûte davantage. Alors, tu sais, cette première question que tu dois te poser ce matin, est-ce qu'il se pourrait que tu ne donnes à Dieu que ce qui ne te coûte pas trop, que ce qui ne te demande pas trop? Il y a des personnes qui donnent à Dieu dimanche matin entre 10h et midi et demi. Midi et demi, c'est quand le prédicateur a tardé un peu trop et que là, on dépasse l'heure. Mais à ce moment-là, on commence à regarder la montre. Certains même qui sont dans la salle, dans l'église, vont se lever, vont faire les 100 pas à l'arrière ou vont sortir parce que midi est arrivé et j'ai d'autres choses à faire. Est-ce qu'il se pourrait que la seule chose que tu donnes à Dieu, ce soit 2 heures durant la semaine parce que ça ne te coûte pas trop? Dieu peut-il te demander davantage sur ton temps? Dieu peut-il te demander davantage sur tes activités? Dieu peut-il te demander davantage au niveau des offrandes? Je parlais avec quelqu'un dernièrement et cette personne est dans cette réflexion où elle sent que Dieu, même pécuniairement, lui demande davantage, lui demande de donner avec un coût supplémentaire qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il se pourrait que Dieu fasse la même chose avec toi? Est-ce que se pourrait que la réponse que tu lui offres, au lieu de lui donner de l'or, de l'argent ou du marbre, tu dises au Seigneur, contente-toi du bois, c'est bien suffisant pour faire le boulot. Le bois est moins noble, le bois est moins solide, le bois dure moins longtemps, le bois coûte moins cher, bien entendu, qu'une colonne en marbre. Le deuxième point qui nous est mentionné, c'est le terme foin. Foin, c'est en grec le terme chortos. Chortos, C-H-O-R-T-O-S. Je répète, chortos pour foin, C-H-O-R-T-O-S. J'ai grandi, ou je suis né plutôt, à la ferme. Mes grands-parents étaient des cultivateurs, des métayers, mais personnellement, je ne suis pas un fermier, je ne suis pas quelqu'un du monde agricole, je suis un gars de la ville, j'aime Montréal, j'aime mon petit quartier, même si je rêverais d'avoir une maison en bois rond, quelque part au bord d'un lac, quelque part dans le Québec, mais je ne pourrais pas vivre en permanence là-bas, je devrais vivre à tout prix en ville, c'est là que je me sens bien, c'est là que je vous retrouve de toute manière. Donc, j'ai un peu de difficulté avec les termes agricoles, il a fallu que j'aille chercher. Le foin, c'est quoi? Le foin, en fait, c'est de l'herbe haute. Le foin, c'est de l'herbe des prairies qu'on laisse pousser et qu'on va faucher et qu'on va laisser sécher pour être de la nourriture pour les animaux. En fait, c'est de l'herbe qu'on laisse pousser, qu'on coupe et qu'on laisse sécher et qu'on va donner comme nourriture aux animaux. Donc, en partant, le foin n'est pas pour toi, il n'est pas pour moi. Le foin n'est pas la tige de blé qu'on laisse, c'est pas ça le foin. Le foin, c'est de l'herbe qui est initialement prévue, pensée, planifiée, utilisée strictement pour les animaux. Donc, ni pour toi, ni pour moi. Le foin, en fait, ici, représente ce que je n'utilise pas. Et se pourrait-il, comme question ce matin, on se pose des questions sérieuses ce matin, se pourrait-il que dans mon service, je donne tout simplement à Dieu ce que je n'utilise pas pour moi-même? Il y a des gens qui sont très généreux et qui vont donner de leur nécessaire. On connaît de ces personnes qui sont des débonnaires, qui ont le cœur sur la main et qui donnent même jusqu'à leur propre chemise. Du foin ne pourrait pas être une chemise. En fait, ça serait, pour comparer du foin à un habit, ça serait de donner à quelqu'un un habit que tu ne portes pas, qui ne te fait pas. Genre, je prends une robe qui est dans le placard de mon épouse et je décide de le donner à quelqu'un. Cette robe-là ne m'est pas utile. Cette robe-là, je ne l'utiliserai jamais parce qu'elle n'est pas pour moi. Donc, je la prends et je peux la donner facilement à quelqu'un parce qu'elle ne m'est pas utile. Se pourrait-il que la chose qu'on donne à Dieu, ce soit des choses que nous n'utilisons pas, mais tout ce qui nous est nécessaire, on le garde pour nous? Se pourrait-il que ce qu'on donne à Dieu soit effectivement des choses qui, à la base, ne nous coûtent rien et qui, de surcroît à cela, ne nous est strictement pas utile? Toujours cette image de la veuve qui va donner le plus gros montant aux yeux de Jésus parce qu'elle a donné de son nécessaire. Certains d'entre nous sont très généreux avec tout ce qui ne nous est pas utile. On regarde nos placards puis on se dit, voilà, j'ai tel et tel et tel vêtement, je vais le donner pour les œuvres caritatives, je vais le donner pour ceux qui sont un peu moins nantis. Et la plupart du temps, on va donner des choses qu'on ne porte pas, des choses qui ne nous sont pas utiles. Mais se pourrait-il que cette même pensée nous habite, que cette même pensée nous anime dans notre service par rapport à Dieu? Et ce matin, je ne veux pas aller dans les détails de ce qui pourrait être coûteux pour toi, de ce qui pourrait être utile ou inutile pour toi. Je t'expose la parole de Dieu, et après ça, je prie que le Seigneur pointe dans ta vie les choses qu'il veut améliorer. C'est des grands groupes généraux que j'expose, mais je crois que chacun d'entre nous reçoit sa dose et assurément peut se mettre à penser, à réfléchir, à savoir qu'est-ce que je donne à Dieu. Alors, se pourrait-il que je lui donne du foin, quelque chose qui ne m'est pas utile et qui m'est donc très facile de me départir? Est-ce que je donne à Dieu des choses qui ne me servent à rien, en me disant, ben si à toi ça peut te servir, tant mieux pour toi. Moi, de toute manière, ça ne me sert à rien. Et si quelque chose m'était utile à moi et utile à Dieu, à ce moment-là, qui je privilégie? Dieu ou moi? Est-ce que je fais passer le besoin de Dieu avant mon besoin? Et assurément, je rephrase la chose puisque la Bible nous dit que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Que tous les trésors de cette terre, il les a déjà entre ses mains. Mais dans ta relation avec le Seigneur, est-ce qu'effectivement, tu lui donnes des choses qui te sont utiles, des choses qui te coûtent, ou ce que tu lui donnes, t'est parfaitement inutile, donc ça ne te fait ni chaud ni froid de t'en départir? Et deuxièmement, ça ne te coûte rien. Donc, encore une fois, ça ne t'a fait ni chaud ni froid. Le troisième terme, la chaume. Donc, il nous dit, certains bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et d'autres avec du bois, du foin, du chaume. Le chaume, c'est quoi? Le chaume, c'est la tige de blé qui reste en terre, debout, une fois qu'on a moissonné le blé. Vous savez que le blé, c'est une espèce de tige, et au bout de la tige, il y a ces endroits où il y a des petits réceptacles dans lesquels il y a des grains. La céréale est là en haut. Quand on moissonne, on va garder simplement cette partie du haut dans laquelle il y avait les grains de céréales. Mais la tige qui est soit laissée encore en terre ou qu'on a coupée et qu'on a détachée de là où il y a les céréales, cette tige s'appelle le chaume. Donc, ça se fait pour le blé, ça se fait pour le maïs, ça se fait pour d'autres céréales aussi. C'est donc la tige qui reste une fois que la moisson et la récolte a été faite. Et ici, pour nous, c'est l'exemple de ces choses qui nous restent après avoir déjà utilisé la bonne part. Le chaume ne sert strictement à rien pour l'être humain, si ce n'est que d'avoir préalablement été le support pour la céréale. Mais le chaume ne se mange pas. Le chaume, on va l'utiliser essentiellement pour le mêler avec de la boue, pour en faire certaines structures, pour en faire des murs. Mais encore là, c'est d'une solidité précaire. Mais c'est surtout l'image de dire « J'ai donné à Dieu ce qui me restait après avoir pris la bonne part pour moi. » Se pourrait-il que ce qu'on donne à Dieu soit le restant une fois qu'on a, nous, pensé à nous-mêmes et vu à nos propres choses? Se pourrait-il que ce que j'offre à Dieu, c'est le restant du temps qui me reste? Je sais, c'est redondant, mais je fais exprès. Le restant du temps qui reste entre mes mains une fois que je me suis déjà occupé à faire tout ce que j'avais envie de faire, et là, il me reste un petit 2 heures dimanche matin que je vais consacrer à Dieu. Se pourrait-il que mon offrande, au niveau de la qualité de mon service, ce soit, j'ai déjà mis tant d'efforts dans un tas de choses, maintenant je suis crevé, fatigué, brûlé, je donne à Dieu vaille que vaille, mais je lui donne au moins. Se pourrait-il que au niveau de la qualité ou au niveau de la richesse de la chose, ce soit bon, j'ai veillé à ma nourriture, à mon loyer, à mon ci, à mon ça, à mon ci, à mon ça, à mes loisirs, à mes passe-temps, à mes ci, à mes cela. Et ce qui me reste, parce qu'il faut quand même que j'économise un peu, je le partage entre mes REER, entre mon compte d'épargne, entre la boîte dans laquelle je range mes scènes noires, ce qu'on avait autrefois, les scènes noires, on n'en a plus, là. Mais je range la monnaie là-bas. Donc, une fois que ça, c'est bien rempli, à ce moment-là, ce qui reste, je donne à Dieu. Encore là, c'est une image que je donne ce matin. Mais simplement pour qu'on se pose la question, vous et moi, à savoir, mais qu'est-ce que je donne à Dieu? Le chaume, c'est le terme calamé. K-A-L-A-M-E. Calamé, parce que je sais que vous prenez des notes et j'ai oublié de vous le donner. Donc, calamé, chaume, K-A-L-A-M-E. Ce qui me reste après avoir déjà utilisé la bonne part. C'est comme si vous recevez quelqu'un à la maison et puis vous lui donnez le restant d'une pomme. J'ai croqué dans la pomme, elle était très bonne, je n'ai plus faim, il me reste le trognon, le cœur de la pomme. Et là, vous ne le donnerez pas à quelqu'un. J'espère que vous ne le donnerez pas à quelqu'un, que vous n'êtes pas ce type de personnage. J'espère que vous aurez un peu de retenue. Et pourtant, est-ce qu'il se pourrait que ce soit ce qu'on fasse avec Dieu? On mange tout le tour de la pomme en lui disant, « Mais Seigneur, le cœur de la pomme ne me sert à rien, donc tu peux le prendre si ça t'intéresse. Seigneur, j'ai déjà ramassé toutes les céréales qui étaient nécessaires. Alors, si toi, tu es capable de faire quelque chose avec du chaume, ben, prends-le, je te le donne. » Est-ce que c'est ce type de relation que je veux avoir avec le Seigneur? Est-ce que c'est ce type de relation que je veux avoir avec celui qui m'a sauvé? Avec celui qui a donné tout ce qu'il avait? Avec celui qui a donné le meilleur de ce qu'il avait pour moi? Jésus était la parfaite création. Il était la perfection de la création. Pas touché par le péché, pas taché par le péché, pas contaminé de quelque façon que ce soit. La plénitude de Dieu qui demeure en lui. Et malgré tout, cette vie parfaite a été donnée pour toi, pour moi, pour que nous en soyons les bénéficiaires et que nous tirions notre salut du don de cette vie parfaite. Est-ce qu'en réponse à Dieu, je peux lui dire, voici, je te donne du bois, quelque chose qui me coûte peu, alors que lui a tout donné? Est-ce que je peux lui donner, est-ce que je peux m'aventurer à lui donner du foin? Seigneur, je te donne tout ce que je n'utilise pas. Tu peux prendre tout ce que j'ai que je n'utilise pas, tu peux le prendre. Tout ce qui ne me sert à rien, tu peux le prendre. Ou est-ce que je donne à Dieu le restant? Seigneur, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec tout cela. Maintenant, le restant ne me sert à rien, tu peux le prendre. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce que je veux donner à Dieu? Quel est le type de service et de vie que je veux mener devant Dieu? Nous bâtissons, on peut le faire avec de l'or, avec de l'argent, avec du marbre. On peut le faire aussi avec du bois, qui me coûte peu, avec du foin, que je n'utilise pas, avec du chaume, où j'ai déjà pris la bonne part pour moi. Et je reste le restant du restant du restant du restant qui reste à Dieu. Alors voilà la question, voilà les questions pour nous. Comme je dis, je ne rentre pas dans les détails, ce que veut dire donner son meilleur, ce que veut dire donner du bois, du chaume, du foin dans ta vie. Je laisse Dieu t'éclairer. Prions tous ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu nous parles. Merci Seigneur parce que ta bouche s'ouvre et nous entendons ta parole. Et ce matin, assurément, nous sommes tous amenés à des réflexions et à être confrontés par la parole que nous avons reçue. Qu'est-ce qu'on te donne, Seigneur? Est-ce que je te donne de mon meilleur? Est-ce que je te donne de mon superflu? Est-ce que je te donne de mon inutile? Est-ce que je te donne après avoir pensé à moi-même en premier et avoir tout vidé ce qui était à vider en te donnant le restant, les fonds de tiroir? Seigneur, tu me parles. Tu parles à ma sœur. Tu parles à mon frère. Éclaire nos vies. Montre-nous ce que tu désires de chacun d'entre nous. Et je prie que ma sœur, mon frère et moi-même puissions répondre favorablement à tes exigences, à tes demandes, à tes aspirations à notre égard. Et je prie effectivement, Seigneur, que notre quête d'une vie de qualité nous pousse vers l'excellence dans ce que nous t'offrons aussi. Alors bénis cette parole, arrose-la par l'onction de ton esprit. Fais-la croître dans nos pensées. Illustre-la de faits factuels, de faits palpables dans nos vies respectives. Et que nous puissions t'apporter la réponse qui est due. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère que vous avez été bénis. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Et la thématique demain, c'est l'œuvre de chacun sera manifestée. On vous rappelle qu'on est mercredi. Ce soir, c'est l'étude biblique avec le pasteur Sergio en direct de l'église sur notre page Facebook et sur le réseau Zoom, ou sur la plateforme Zoom plutôt. Donc, on espère que vous serez nombreux dans cette étude sur le livre des servir Dieu en temps de défi. Donc peut-être que servir Dieu en temps de défi aujourd'hui, c'est aussi de réfléchir à la qualité de notre service, à la qualité qu'on offre à Dieu dans ce que nous lui apportons. Alors sur cela plutôt, je commence à déparler, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée tous et chacun, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous dirige tout au long de cette journée. Ce soir, 19h avec le pasteur Sergio, sinon demain matin, 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde!